4h à Paris, 3h en temps universel.
Antoine Galen.
À la une poignée de main attendue. Volodymyr Zelensky a vu Keith Kellogg, l'envoyé spécial des États-Unis en Ukraine, se sont vus ce jeudi. On fait le point dès le début de ce journal. Cela fait un mois que Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche. En 30 jours, le républicain n'a cessé de nier l'existence du réchauffement planétaire. Et puis, coup d'arrêt pour Victor Wembanyama. Le basketteur français s'est blessé. Il sera absent jusqu'à mi-avril. Volodymyr Zelensky et Keith Kellogg, l'envoyé spécial des États-Unis en Ukraine, se sont vus jeudi, une rencontre extrêmement productive au lendemain d'une diatribe de Donald Trump à l'égard du président ukrainien. Il l'avait qualifié de dictateur sans élection, correspondance d'Emmanuel Chaz en Ukraine.
Peu de communication sur la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Keith Kellogg, hormis quelques images officielles d'une poignée de main. Les sourires sont là, mais la tension est palpable lors de cette visite de l'envoyé spécial des États-Unis en Ukraine. À la dernière minute, le porte-parole du président ukrainien a annoncé l'annulation d'une conférence de presse à la demande américaine. Et c'est sur les réseaux sociaux de Volodymyr Zelensky qu'on en a appris un peu plus sur cette rencontre. Le président ukrainien a remercié une nouvelle fois les États-Unis pour leur soutien jusqu'à présent à l'Ukraine. Zelensky a également parlé d'une conversation détaillée sur le retour de tous les prisonniers de guerre ukrainiens ainsi que sur la situation sur la ligne de front. Il a également répété que l'Ukraine cherche une paix durable et un accord mutuellement bénéfique sur les terres rares et la sécurité avec le président des États-Unis. Prudence donc du côté de Kiev qui ménage toujours Washington malgré les nombreux mensonges proférés par Donald Trump à l'égard de Volodymyr Zelensky et de l'Ukraine. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Ce vendredi, Pékin affirme qu'une fenêtre de paix s'ouvre en Ukraine. Une augmentation des dépenses de défense face à la menace russe. C'est ce que demande le Premier ministre finlandais lors d'une réunion à Helsinki des commissaires européens. La Finlande, qui partage une frontière de plus de 1300 km avec la Russie, a déjà augmenté ses dépenses de défense depuis l'invasion de l'Ukraine et a rejoint l'OTAN en avril 2023. Sur fond de défiance envers la Russie, justement, les ministres des Affaires étrangères des pays du G20 se sont réunis en Afrique du Sud pour 2 jours. Un rassemblement pour préparer le sommet des chefs d'État qui se tiendra pour la première fois sur le sol africain en novembre à Johannesburg. Mais l'ombre des tensions diplomatiques plane sur les projets de l'Afrique du Sud. Claire Bargelès.
C'est finalement la chargée d'affaires de Pretoria qui a remplacé le chef de la diplomatie américaine dans la salle. Et la semaine prochaine, au Cap, le secrétaire du Trésor, Scott Bessent, devrait lui aussi être absent au sommet des ministres des Finances. Le président Cyril Ramaphosa a tenté de minimiser le tout.
Ce n'est pas un revers finalement, car les États-Unis sont quand même représentés ici. Nous allons réussir par la voie diplomatique à échanger autour de ces problèmes afin d'aplanir toutes les difficultés qui ont pu voir le jour dans nos relations.
Il n'y a pas eu de photos de famille des autres ministres des Affaires étrangères. Selon des sources diplomatiques, des représentants européens auraient refusé d'apparaître aux côtés de Sergueï Lavrov. Mais le président sud-africain s'est lui entretenu avec le ministre russe. La guerre en Ukraine aura beaucoup occupé les discussions, comme le détaille l'ambassadeur allemand en Afrique du Sud, Andreas Peschke.
Évidemment, la question de l'agression de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine est difficile à aborder au G20, puisque l'agresseur se trouve dans la salle. Mais cela reste important d'avoir un dialogue ici avec les partenaires des pays du Sud. Et en ce sens, le G20 est donc un bon forum pour en discuter en plénière et lors des rencontres en marge de la réunion.
Malgré les tensions diplomatiques, Cyril Ramaphosa compte aller de l'avant avec son programme pour le G20 et faire entendre la voix des pays en développement sur les dossiers de la dette et du changement climatique. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Direction le Proche-Orient, minute de silence sur la place des otages ce jeudi à Tel Aviv. 4 cercueils sont arrivés à la morgue de la capitale israélienne. Première fois que le Hamas rendait des corps d'otages depuis le 7 octobre. Quelques heures plus tôt, le parti islamiste a exposé les cercueils sur une estrade à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Anne Verdaghi, cette mise en scène a fait réagir.
Peu avant la remise des corps à la Croix-Rouge, une cérémonie funeste a été organisée par des combattants cagoulés et armés du Hamas qui ont exposé sur un podium les 4 cercueils portant chacun la photo d'un des otages. Au-dessus, un poster du premier ministre israélien, le visage maculé de sang et affublé de dents de vampire. Des images à peine supportables selon la chef de la diplomatie allemande qui dénonce sur X la terreur sans limite du Hamas. Mes pensées vont vers les familles, a-t-elle ajouté. J'espère qu'elles pourront bientôt faire le deuil de leurs proches et les enterrer dignement. Benjamin Netanyahou a lui affirmé dans une déclaration vidéo que son pays était fou de rage contre le Hamas, qu'il a qualifié de monstre. Nous ramènerons tous nos otages, détruirons les meurtriers, éliminerons le Hamas et ensemble, avec l'aide de Dieu, nous assurerons notre avenir, a-t-il poursuivi. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a lui qualifié d'abject et cruel cette mise en scène et a dénoncé une parade des corps qui va à l'encontre du droit international qui stipule le respect de la dignité de la personne décédée et de sa famille.
Israël affirme que l'un des corps remis par le Hamas n'est pas celui de l'otage Shiri Bibas. L'État hébreu exige le retour de son corps ainsi que le reste des otages. Le Hamas s'est dit prêt à libérer en une seule fois tous les otages restants dans le cadre de la deuxième phase de la trêve. Pendant ce temps, des explosions ont touché deux bus vides à Tel Aviv ce jeudi. Pas de victimes, mais Benjamin Netanyahou ordonne une opération intensive en Cisjordanie occupée. À plusieurs centaines de kilomètres de là, une rencontre est prévue vendredi entre plusieurs dirigeants arabes à Riyad. Le but, trouver une réponse face à la proposition de Donald Trump. Le président américain veut transformer l'enclave en une riviera et déplacer les plus de 2 millions de Palestiniens. Gaza, où l'armée israélienne a tué plus de 48 000 Palestiniens, en majorité des civils. Un mois après l'arrivée de Donald Trump au bureau ovale, la frénésie et l'étendue de ses décisions prises par décret ne cessent de laisser le monde stupéfait. Effet. Gel de l'aide extérieure, déportation de migrants en situation irrégulière, coupe sombre dans l'administration fédérale. En matière environnementale et climatique, le démantèlement organisé par le Républicain qui nie l'existence du réchauffement climatique est également colossal, Simon Rosé.
C'est l'une de ses décisions les plus emblématiques. Donald Trump, au premier jour de son mandat, actait la sortie une nouvelle fois des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Mais l'attaque est bien plus large. Subventions gelées, rapports enterrés, agences fédérales dans le collimateur. C'est le cas de l'EPA, dédié à la protection de l'environnement. 20 milliards de dollars de subventions en faveur du développement des énergies propres sont menacés et près de 500 de ses agents ont été licenciés ou placés en congé administratif. Il y a les décisions très concrètes et le mouvement de fond plus pernicieux. La mention du changement climatique a disparu du site internet de la Maison-Blanche. Les agences scientifiques passent en revue toutes les demandes de financement des chercheurs. Celles-ci ne doivent plus comprendre certains termes liés à la diversité ou au climat. Des attaques contre la science qui auront des conséquences nationales mais également internationales, tant certains organismes américains, à l'image de celui dédié à l'étude de l'atmosphère et des océans, font référence. La riposte s'organise. Des scientifiques essaient de sauvegarder le plus de données possible avant qu'elles ne soient mises hors ligne et une grande marche pour la science aura lieu le 7 mars prochain.
Mais ce qui accélère le dérèglement climatique, c'est aussi la déforestation. Et bien en Colombie, elle a augmenté de 35% en 2024 par rapport à 2023. Le gouvernement colombien pointe du doigt les guérillas, mais aussi la culture d'huile de palme et de feuilles de coca. La Colombie, qui a accueilli la COP16 sur la biodiversité en 2024, s'est engagée à une déforestation zéro d'ici 2030. C'est une première. La Suisse reconnaît un crime contre l'humanité à l'encontre des Roms. Placement forcé, internement et stérilisation, les communautés Yéniche et Manouche ont été persécutées dans le pays tout au long du XXe siècle. Plus de 2000 d'entre eux ont été placés de force, dont des centaines d'enfants. En basket, les Spurs de San Antonio devront faire sans Victor Wembanyama. Il est blessé jusqu'à la fin de la saison régulière. Une annonce que personne n'avait vu venir et qui assombrit la fin de saison des Spurs. Théo Quintard.
Un choc, une déflagration, un gros coup de massue sur la tête. Un peu avant midi ce jeudi, les Spurs ont annoncé l'impensable. Victor Wembanyama devrait être indisponible jusqu'à la fin de saison. La raison ? Une thrombose à l'épaule droite, autrement dit, un gros caillou de sang. Depuis San Antonio, cette blessure surprend tant elle était inattendue. Ces derniers matchs, Wemby semblait fatigué, à bout de souffle, mais rien d'alarmant à ce stade de la saison, car la NBA est un championnat éreintant et long de 82 matchs. Cette blessure surprend, mais surtout, elle inquiète, car avant lui, d'autres joueurs ont connu un tel pépin physique et la plupart ont eu du mal à s'en remettre. C'est notamment le cas de l'ailier des Toronto Raptors, Brandon Ingram, en 2019. Les Spurs peuvent trembler car Victor Wembanyama rayonne. Vainqueur d'un titre de meilleur jeune de la saison, il filait en 2025 vers celui de meilleur défenseur. En interne toutefois, le club ne veut pas céder à la panique et reste rassurant. Il espère que le Français reviendra en forme à la rentrée prochaine pour l'an 3 de Wemby en NBA. Théo Quintard, San Antonio, RFI.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochaine édition dans un peu plus de 50 minutes.